Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Vendredi 5 juin 2015, bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Le Grand Dialogue, comme à son habitude, planche donc sur trois thèmes. Les discussions d'Alger qui ont donc abouti à deux documents signés par le gouvernement du Mali et les membres donc de la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Mais sans la signature de la plateforme, le Forum pharmaceutique international de Bamako sera le deuxième thème de cette émission et les examens de fin d'année. Nous terminerons donc avec ce troisième thème. Les invités à cette émission, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Yaya Koulibaly de la radio Nasira Oulé et Alou Diawara, journaliste indépendant. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré est à la technique. Studio Tamani. Les dernières discussions donc d'Alger ont abouti à l'élaboration de deux documents signés par le gouvernement du Mali et les membres de la CMA, la coordination des mouvements armés de l'Azawad, sans la plateforme qui lui trouve des incohérences avec l'accord de paix signé le 15 mai à Bamako. Le premier point d'accord, c'est sur les conditions de redéploiement de l'armée malienne dans le nord et donc la question comment cela doit se manifester très concrètement.
Moi, je pense que de toutes les façons, l'accord d'Alger, bonsoir d'abord à vous, mes confrères et aux auditeurs, l'accord d'Alger prévoit très concrètement comment tout cela doit se passer sur le terrain. Il me semble qu'à Alger, il a surtout été question de Menaka. Ça a été le gros os qu'il fallait ranger à Alger et essayer de trouver comment sortir cette localité qui est dans une situation difficile depuis plus de 2 semaines maintenant. Donc je pense que la plateforme n'a pas signé, à ce qu'il paraît, ce document qui lie désormais donc le gouvernement du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad. Je pense que la plateforme va finir par y arriver si on lui donne les garanties de sécurité des populations. Parce que c'est de cela qu'elle se revendique, c'est pour cela qu'elle dit avoir pris les armes. Donc je pense que si Menaka, on garantit à Menaka, un, l'entrée de l'armée malienne, parce qu'il le faut à Menaka, et la supervision de la sécurisation des populations par la MINUSMA, je pense que ce problème-là sera résolu. Et par-delà, tout le problème du Nord. Parce qu'en fait, qu'est-ce que les hommes de la CMA brandissent? C'est les exactions possibles de l'armée malienne contre les populations civiles. Donc si la MINUSMA se porte garante, en quelque sorte, de l'armée malienne sur le terrain, et on sait que quand même nos militaires ne sont pas des sauvages, ils savent que ce sont des Maliens qui sont là-bas, ils sauront faire la part des choses et aider les populations à retrouver un tant soit peu de sécurité pour relancer définitivement la paix et le développement dont on a tant besoin.
D'accord. Alors le deuxième point, vous l'avez effleuré, Célia, c'est donc la situation de Menaka. Seule la MINUSMA sera donc chargée de sécuriser la ville. L'armée malienne restera cantonnée. Pourquoi le contrôle de la ville de Menaka est-il si stratégique pour le groupe armé Alou Diawara?
Et moi, je pense que mon intervention porte sur éventuellement la forme qui me dérange un peu. Hier, c'était un accord signé avec le gouvernement malien et la plateforme. La CMA était out. Cette fois, la plateforme est out. La CMA et le gouvernement sont là. Et s'il y a d'autres signatures, qui sera out? Est-ce que c'est le gouvernement? Moi, mon inquiétude se situe au niveau de la forme. Bien que, dans le fond, je pense que l'accord intervient à un moment où il y a un peu d'accalmie, ce qui est vraiment bien. Mais du point de vue de la forme, je pense que la forme manque, en fait. Parlant de Menaka, stratégique ou non, je n'aimerais pas m'hasarder plutôt dans les détails, mais ce que je sais, si la médiation estime que Menaka a été repris en violation des règles de cessez-le-feu établies et auxquelles toutes les parties avaient adhéré, je pense que si ça doit ramener le calme, si ça doit ramener le processus est sur une belle voie, et je pense qu'on peut attendre voir. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Alou Diawara. Yaya Koulibaly, vous êtes de la radio Nassira Oulé. Quelle est votre analyse concernant ces deux points d'accord que l'ASEMA vient donc de signer avec le gouvernement du Mali concernant d'abord le redéploiement de l'armée malienne dans le nord et cette situation à Ménaka?
Famoussa, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous savez, cette question de Ménaka, d'ailleurs, cette réouverture, discussion à Alger, d'abord, moi, j'étais contre. Ça n'engage que moi. Je me suis dit pourquoi un second tour à Alger, l'accord de paix a été signé à Bamako. Alors, toutes les parties y ont été invitées. Alors, la CMA a délibérément décidé de ne pas venir signer l'accord. Alors, le gouvernement malien avait décidé de ne pas aller à Alger. Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas à Alger? D'accord. Mais la question, c'est quoi? Ménaka, c'est le Mali. Je me rappelle à un moment donné quand la plateforme, n'est-ce pas, avait pris Ménaka, Saad Ag Mahmoud a confirmé que l'aménagement exige à ce que la plateforme quitte Ménaka au profit de qui, je ne sais pas. En son temps, l'aménagement fait un communiqué pour dire que non, elle n'a pas demandé à la plateforme de quitter. Mais aujourd'hui, je pense que les intentions de l'aménagement sont confirmées.
Alors, il s'agit très clairement à travers ce document que l'aménagement, c'est seul l'aménagement qui doit sécuriser la ville.
Ce qui n'est pas normal.
Les groupes armés doivent quitter la ville.
De mon point de vue, ce qui n'est pas normal. Moi, j'ai dit la plateforme n'est pas à défendre, d'accord. Mais si Ménaka doit revenir, n'est-ce pas, à une partie, c'est le Mali.
Alors,
et c'est les femmes qui doivent être à Ménaka.
C'est la force neutre qui occupe la zone.
Mais l'aménagement n'est pas une force neutre, il faut qu'on dise la vérité. Moi, je l'ai toujours dit, les histoires d'aménagement de Barkhane, c'est très beau. Hein. Mais si aujourd'hui, après avoir signé l'accord de paix, si Ménaka doit être sécurisé, c'est par les femmes, pas par l'aménagement. Parce que Ménaka, c'est le Mali. Et les femmes sont les forces régulières du Mali, pas l'aménagement.
Ce point de vue est entendu. Alors, entre-temps, la CEMA, la coordination des mouvements armés de la Zawad, annonce sa signature donc, de l'accord de paix le 20 juin. Célia, ça vous parle?
Qu'à Dieu plaise. Qu'à Dieu plaise, parce que finalement, comme Aliou l'a dit tout à l'heure, hein, une partie signe, l'autre ne signe pas, une partie ne signe pas, l'autre signe. On espère, on prie de tous nos voeux de voir ce fameux 20 juin et de voir la signature de la CMA au-dessous de ce papier. Maintenant, est-ce que c'est l'accord que nous avons signé à Bamako que la CMA va signer le 20 juin? Qu'est-ce qui s'est dit à Alger? Quel est le contenu de ce texte? C'est toute la question aujourd'hui. Parce qu'il y a des discussions, ça fait 10 jours qu'ils sont là-bas, ils sont en train de discuter. Il est vrai qu'il y a des petites informations qui filtrent, mais le gros du contenu, qu'est-ce qu'on a lâché à la CMA pour qu'elle accepte de signer ce papier? C'est cela qu'il faut qu'on sache pour savoir quel est le prix que nous payons pour avoir la signature de nos frères de la CMA sur ce papier qui va nous ramener à la paix. Donc, espérons que le prix ne soit pas trop élevé pour le Mali et que vraiment ce soit une signature de bonne foi, que ce ne soit pas encore une fois le poker menteur auquel nous assistons depuis le début de cette histoire et que la paix revienne pour que le Mali et les Maliens puissent faire face vraiment aux problèmes importants. Voilà.
Alors, est-ce que cela nous rappelle aujourd'hui la première annonce concernant le PARAF qui est intervenu le 15 avril et finalement ça s'est fait le 14 mai seulement à Alou Diawara? Est-ce que la CEMA va respecter cette date du 20 juin?
Et on attend de voir et en bon malien, on espère qu'elle va venir signer. Mais comme ma consoeur l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas quel document elle va venir signer à la date du 20 juin. Mais ces documents signés aujourd'hui soulèvent d'autres interrogations. Que valent ces documents alors que toutes les parties ne sont pas d'accord sur le fait que la mise en œuvre de l'accord du 15 mai a commencé ou pas? Parce que le langage du gouvernement malien, c'est comme si immédiatement après sa signature et la signature de la plateforme et de deux autres groupes de la CMA le 15 mai, la mise en œuvre a commencé. mais la médiation ne confirme pas ce postulat. Voilà, justement, mais le fait que la CMA n'a pas signé, la médiation ne dit pas qu'on est...
Dans la phase déjà, de mise en œuvre.
Justement, est-ce que c'est une phase, intermédiaire qu'on est en train de vivre en ce moment, on ne sait pas. Il y a aussi une autre chose qu'il faut considérer. Que valent ces deux documents signés aujourd'hui si on n'a pas une idée du comité de suivi de l'accord? Parce qu'il est question de mise en œuvre de l'accord. Donc, qui mettront en place ce comité? Et comment elle va fonctionner, le comité va fonctionner. Et voilà, c'est des tas d'interrogations que ces deux documents d'aujourd'hui soulèvent sans qu'on ait des réponses tout de suite et sans qu'on sache aussi qu'est-ce qui sera fait le 20 juin effectivement par rapport à une pléiade de documents désormais, l'ancien document et puis les deux nouveaux documents. Qu'est-ce qui sera signé, qu'est-ce qui ne sera pas signé?
D'accord. Voilà. Alors, cette réaction donc du gouvernement malien juste après la signature de ces deux documents, le gouvernement donc qui annonce que à travers le ministre des Affaires étrangères que c'est dans le souci de la mise en œuvre de l'accord de paix et dans l'intérêt exclusif des populations que Bamako a signé ces documents. Toutefois, selon Abdoulaye Diop, ces deux documents ne peuvent être un additif donc aux annexes de l'accord déjà signé le 15 mai. Cet accord reste intouchable et la médiation a garanti cela, a-t-il précisé. Yaya, qu'est-ce que cela veut dire?
Ben moi, j'ai toujours dit que l'accord signé le 15 mai, c'est l'accord que les Maliens ont voulu parfois sans le vouloir parce qu'on nous a dit que c'est un accord qui nous conduit à la paix. Même si moi personnellement je n'y ai jamais cru, de toutes les manières c'est ma conviction. Alors, mais on s'est dit si un accord doit conduire à la paix et que alors on doit espérer, voilà, donc l'accord a été signé le 15 mai, mais la CMA n'est pas venue. Mais si la CMA doit revenir signer le même document, alors sans autre forme, n'est-ce pas, d'addition, sinon de modification, c'est une bonne chose. Alors, mais moi, mon souci, alors majeur, c'est que s'agit-il de signer le document ou faut-il le mettre en œuvre? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai tout un tas de questions à me poser. Je me dis, mais qui doit faire quoi dans cette histoire? Parce que le Mali, c'est du parti. Parti comme la CMA, comme la plateforme, et à part égale. C'est ce qui n'est pas normal, en fait. Nous sommes au Mali ou nous sommes où? C'est la question qu'il faut se poser. Et moi, je me dis que finalement, le gouvernement malien ne se sent pas au Mali, en fait. Comment est-ce qu'on peut traiter un gouvernement à part égale, n'est-ce pas, qu'une coordination de groupes armés et déjà un accord a été signé, mais au lieu de penser à le mettre en œuvre, non, on essaie de trimballer par-ci, par-là, et on sait où est le problème déjà. C'est ma question. De toutes les manières, moi, je me suis toujours dit que, alors, il faut que l'AMINUSMA prenne ses responsabilités face à ce qui se passe aujourd'hui au Mali. On a signé trop de papiers, finalement, c'est trop beau. On va dire, ah, est-ce que lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Signer les papiers, c'est bien, d'accord, c'est bien, mais. Finalement, je me dis, il faudrait qu'on soit concret dans ce qu'on fait. Donc, si la CMA vient signer le 20 juin, le document qui a été signé le 15 mai, c'est une bonne chose, on l'espère bien. Voilà.
Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons le cours de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, merci de nous suivre à travers nos 23 radios partenaires répertoriés par l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, à travers tout le pays, le forum de la presse. Donc, planche sur trois sujets. Le premier, c'était l'accord de paix, deux documents qui ont donc été présentés aux parties par la médiation, signé par le gouvernement du Mali et les membres de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, mais sans la signature de la plateforme. Alors, juste pour boucler ce chapitre d'Alger, Abdoulaye Diop qui dit que ces deux documents ne peuvent être un additif ou un annexe à l'accord donc déjà signé le 15 mai. Cet accord reste intouchable et la médiation l'a garanti. Célia.
Ben, encore une fois, on va dire amen. On va dire amen en espérant que ce soit vraiment le cas. En fait,
comment peut-on dissocier ce document, ces documents de l'accord?
Bon, on va... On va nous l'expliquer, hein, je l'espère. Mmh. Qu'on va nous l'expliquer, c'est des considérations diplomatiques, politiques ou géostratégiques que nous autres citoyens lambda, on a du mal à appréhender. Mmh. Et j'espère que comme on a fait l'exercice d'expliquer l'accord d'Alger, on fera l'exercice de nous expliquer ce qui se passe après. Pour que le 20 juin, nous soyons tous au même niveau d'information et qu'on se dise, bon, youpi, on y est arrivé, ou bien non, on est à tel niveau, il nous faut encore des efforts. Ce que je pense, qui en tout cas va être primordial dans la suite des événements au Mali, et c'est ce que je dis depuis des mois, je pense que c'est ce que tous les Maliens disent depuis des mois, c'est que c'est une question finalement de bonne foi. Il faut que la confiance revienne. Aujourd'hui, la confiance n'est pas là. Vous voyez, mon ami de Nassira Ouélé qui ne croit pas en les différents acteurs et l'État malien qui a du mal, et la coordination, et la plateforme, et la MINUSMA. Finalement, personne ne fait confiance à personne. Et nous, les citoyens maliens, nous non plus, nous ne faisons confiance à personne dans cette histoire. Donc finalement, ça va être un vrai travail qui va être fait. D'explication, c'est en train d'être fait, mais il faut encore approfondir cela pour que chacun comprenne les enjeux. Qu'on se dise peut-être que bon, ce qui se passe à Alger aujourd'hui, c'est vraiment pour nous donner les moyens que ça ne reste pas un papier pour que ça puisse être concrétisé. Si c'est cela, tant mieux. Et on espère que c'est cela. J'espère vraiment, du fond de mon cœur de malienne, que le 20 juin sera la fin de tous nos problèmes.
D'accord. Comment ça, excuse-moi, aujourd'hui au Mali, la presse malienne ne sait pas quel document a été signé à Alger.
C'est clair.
Les Maliens ne savent pas qu'est-ce que le Mali a signé à Alger.
C'est clair.
C'est une aberration. Ça ne se fait jamais. Un gouvernement se lève, on va signer un document au nom d'un peuple. Personne ne sait qu'on arrête ça finalement. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit, vraiment, je ne sais même pas si on est au Mali. Moi je me dis, est-ce qu'on est au Mali? Est-ce qu'on a un gouvernement qui se sent au Mali? C'est-à-dire que c'est comme si la MINUSMA nous tire par le nez, quoi. Nous, on les suit. On dit, bon, allez à Alger, on va à Alger. À Ouagadougou, on va à Alger. Finalement, on va nous dire maintenant, allez à Paris, on va à Paris.
Alors, seule la plateforme a déclaré, présenter ce document à la population de Menaka. Alors, donc vous pensez que
Menaka ne parle pas le Mali, c'est ça la question. Moi, je dis, c'est au gouvernement de dire aux Maliens, nous partons en Alger, nous allons signer un tel document qui contient ça et ça. Et la presse malienne, n'est-ce pas, aurait fait le relais. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Ils veulent qu'on fasse la promotion d'un gouvernement qui est tiré par le nez, qui va signer des choses et qui vient, on applaudit. Non, je ne suis pas d'accord. Ils font du n'importe quoi, excusez-moi le terme, c'est vrai.
D'accord. Alors, nous allons boucler ce chapitre donc d'Alger. Nous allons donc parler du Forum pharmaceutique international de Bamako. Il est attendu de ce forum des pistes de solutions en vue de faciliter l'accès universel aux médicaments en faveur des populations. Les pharmaciens et leurs partenaires vont devoir mener des réflexions sur l'approvisionnement du marché en médicaments de qualité. Il sera également question de l'accessibilité financière aux médicaments et aux autres politiques. Produits de santé, l'assurance qualité, la contrefaçon et le marché illicite, les politiques pharmaceutiques et les réglementations, l'usage rationnel du médicament, la pharmacopée et la médecine traditionnelle, la sécurité transitionnelle, le laboratoire, la formation et la recherche. Alors, ce forum pharmaceutique international pose également la question des faux médicaments. Alou Diawara, pratiquement tous les pays africains subissent donc les effets néfastes de ces faux médicaments-là sur leur population. Que faut-il attendre de ce forum comme action concrète visant ce marché des faux médicaments?
Dans le fond, je pense qu'on doit attendre du forum qui prend fin demain des mesures concrètes qui seront mises en application dans tous les pays impliqués, et à commencer par les nôtres qui sont vraiment les dindons de la farce, qui subissent vraiment le coup de tout ce qui est mondialisation, tout ce qui regroupe des pays sur l'ensemble des continents, parce que les nôtres, nos pays, sont des pays en développement et ont des difficultés sur tous les plans. Donc je pense que qu'on soit ferme, qu'on prenne des résolutions fortes et qu'on veille à leur application et au bénéfice de nos populations. Mais maintenant, sur la forme, toujours, parce qu'il y a des questions de fond et aussi il y a des questions de forme. Sur la forme, ce que je retiens, c'est que un participant a dit qu'ils sont au Mali parce qu'ils veulent témoigner aux Maliens que le Mali is back. C'est-à-dire que un tel forum n'était pas envisageable il y a quelques mois ou il y a quelques années. Donc, au point de vue, forme, je pense que c'est un message fort et aux investisseurs, c'est un message fort à d'autres organisations qui souhaiteraient venir au Mali, mais qui ont douté, qui traînent le pas avec d'autres événements. Je pense à l'attentat sur la terrasse, qui ont traîné le pas. Ça veut dire que c'est la confiance renouvelée au pays, au Mali. Je pense que ça, ce n'est pas à négliger.
D'accord. Alors, Yaya, votre avis sur ce forum pharmaceutique international?
Mais là, je pense que je rejoins Alou Diawara parce que vous savez que le fait que le Mali reçoive ses activités d'envergure, c'est une bonne chose. Ça fait que ceux qui pensent que c'est fini pour le Mali et qu'on est à sécurité zéro, alors je pense que ça donne un regain de confiance.
Alors ça, c'est la forme. On va peut-être entrer en plus dans le fond qui débattait également des faux médicaments. Le marché des faux médicaments, est-ce que le Mali peut relever ce défi?
Les faux médicaments, c'est compliqué. Je ne suis pas pharmacien, mais j'avoue que les informations reçues de part et d'autre alors font que...
C'est un marché qui est compliqué, plus lucratif d'abord. Que le trafic de drogue.
Mais encore plus compliqué parce que, vous savez, c'est vrai que ceux qui vendent des médicaments dans les rues... avec leur panier sont les plus ciblés. Mais
les grossistes,
mais j'avoue que parfois les produits que vous trouverez alors au bout de la rue, le même produit vous le verrez dans une pharmacie, même qualité, même produit. Parfois il y en a qui diront mais Askoul, pourquoi tu dis ça? Mais c'est la vérité. C'est peut-être que les conditions, peut-être des stocks sont différentes, mais voilà. Donc ça fait que c'est moins cher à l'arrivée. Mais on revend au même prix. Donc, ça fait que c'est compliqué, cette histoire de médicaments. Mais nous osons croire que, alors, avec ce forum, que les pharmaciens maliens, quand même, seront beaucoup plus organisés. Alors, parce que le monde entier maintenant nous voit et essaie de trouver une solution, n'est-ce pas, adéquate à ce problème.
Alors, le credo, donc, de ce forum pharmaceutique international, les credos, c'est, entre autres, l'accessibilité des populations aux médicaments et également le partenariat public-privé. Célia Dalmeida, un mot sur ce forum.
Bon, l'accessibilité des médicaments, je pense que, comme mes confrères l'ont dit tout à l'heure, c'est pas le problème de l'accessibilité, les médicaments sont là. Maintenant, est-ce que ce sont des médicaments de qualité? C'est ça la question. Parce que au jour d'aujourd'hui, si vous souffrez d'un petit mal de tête, nous sommes peut-être une dizaine dans cet environnement ici, chacun d'entre nous va vous proposer quelque chose. Ça veut dire que ça existe. Ça est là, les gens connaissent, ils savent plus ou moins ce qu'il faut pour gérer leurs petits maux. Maintenant, il y a la question peut-être de l'accessibilité géographique. Nous parlons de Bamako. Si on va à l'intérieur du pays, il y a des villages où il n'y a même pas de médicaments dans les CESCOM. Ça peut être, et ça doit être un défi à relever pour notre État, de se dire qu'il faut que les gens aient au minimum une petite trousse de premier secours pour que les maux de tête, les constipations, etc., les cassures, les fractures, soient gérées. Il y a la question de la formation du personnel, de ceux qui nous servent quand nous allons en pharmacie. C'est un problème énorme, ça. Il y a en pharmacie aujourd'hui, la connaissance du médicament par ceux qui sont en pharmacie. Aujourd'hui, dans nos pharmacies, nous avons des vendeurs, nous n'avons pas des pharmaciens. Vous arrivez, le monsieur ne vous demande pas si vous avez une ordonnance. Il ne vous demande pas si vous êtes hyper tendu. Il ne vous demande pas si vous avez du diabète. Vous venez vous demander un médicament, il a un fort taux de sucre. Lui, il n'y a pas de problème. Du moment que ça coûte 4,995 et que lui, il voit la marge de la pharmacie qui permet de le payer, lui, vous vend le médicament. Allez faire votre éclampsie devant, lui, ce n'est pas son problème. Donc, je pense qu'il y a un vrai challenge sur la question de la formation. Nos facultés, notre faculté de pharmacie est réputée l'une des meilleures en Afrique de l'Ouest. Il faut que cette réputation-là, nous la tenions sur le terrain, avec les éléments qui sont sur le terrain dans les pharmacies. Et dernier point que je voudrais aborder, qui est vraiment cette question de solidarité dans ce corps-là. On dit le marché est pourri par les médicaments contrefaits. Et comme notre ami l'a dit tout à l'heure, d'où est-ce qu'ils viennent ces médicaments contrefaits? C'est une vraie mafia qui est aujourd'hui qu'il faut qu'on démantèle. parce que même les médicaments qui sont saisis, tous ne sont pas brûlés, ils reviennent dans le circuit. Donc ça va être une vraie question de volonté politique, ça ne concerne pas que le Mali, même en France ils ont des problèmes de faux médicaments. Donc il faut une vraie volonté politique et informer les gens. Que les gens sachent qu'ils ont la possibilité d'avoir des médicaments génériques quand ils vont en pharmacie. C'est pas le médicament le plus cher qui est le plus efficace. Il faut que les gens le comprennent. Il faut qu'on donne la possibilité aux gens, quand ils ont un traitement sur 3 jours, d'acheter une plaquette au lieu de 3 dans la boîte qui coûte 4 500, qu'on leur vende une plaquette qui coûte 1 500. Il en a pour ses 5 jours et il va pas traîner les médicaments après qui vont empoisonner ses enfants à la maison. Voilà. C'est des petites choses qu'on peut mettre en place qui peuvent faciliter et la vie des clients et la vie des pharmaciens et gérer un problème de santé publique.
Alors, ce partenariat public-privé, Alou, comment doit-il se concrétiser sur le terrain ?
Par la sincérité. Il faut que les uns et les autres soient sincères. Il y a aussi que, mon confrère le disait tout à l'heure, les mêmes médicaments, le même prix, la même série, la même usine de fabrication, les mêmes emballages, on les retrouve aussi bien sur le marché que dans des pharmacies. Pourquoi ?
Pourquoi ? Marché noir.
Est-ce que, voilà. Pourquoi ? La faute à qui ? Est-ce que l'État a joué son rôle de contrôle de médicaments ? Parce que de toutes les façons, c'est une question de santé publique. Il incombe aux autorités d'être fermes sur ce plan-là. Pour contrôler qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va dans les pharmacies, qu'est-ce qui est sur le dans la pharmacie par terre, à défaut d'éradiquer le phénomène. Et de toutes les façons, on devrait savoir par beaucoup de canaux, hein, en longueur de journée, chacun a chez soi quelqu'un qui a rencontré un médicament aussi bien dans la pharmacie que sur la place publique, avec les mêmes étiquettes, les mêmes doses et tout. Donc je pense que l'État doit être fort, l'État doit contrôler. S'il n'y a pas un service spécifique dédié à cette cause, on sait que déjà il y a un service pour la santé sanitaire des aliments, mais qui est réduit à son nom, qui a seulement des bureaux, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de matériel pour contrôler la santé sanitaire des aliments. Nous disons que les médicaments, c'est plus grave que les aliments. Parce que les aliments, c'est pour les personnes saines. Mais les médicaments, c'est pour des personnes qui sont malades. Et faute de prendre de bons médicaments, je pense que on est tout prêt de conduire ces personnes-là vers la mort. D'accord. Donc je pense que l'État a un rôle très lourd à jouer.
À jouer.
Voilà, très important à jouer. Voilà.
Alors, le président de la République n'a cessé de parler du fonds Gavi. Il est important aujourd'hui d'obtenir des fonds, mais encore faut-il savoir l'utiliser sur le terrain. La principale usine de fabrication de produits pharmaceutiques au Mali a déposé le bilan, est en faillite aujourd'hui. Et la question de l'accessibilité, de la disponibilité des médicaments aussi se pose dans le pays. Yaya, comment faut-il régler ce problème ?
La gestion des fonds alloués aux structures au Mali, c'est l'épineuse question. Vous savez, je pense qu'Alou a parlé de sincérité. Hein. Moi, je veux ajouter aussi, il faut être honnête avec soi-même. Quoi. Moi, je me dis, vous gérez une structure qui est pratiquement en faillite. Alors, il y a un fonds dont vous bénéficiez qu'il faut gérer. C'est pas au profit de la structure, mais malheureusement, vous savez, nous sommes dans un pays où la corruption atteint son paroxysme. Voilà, donc c'est une bonne chose que ces fonds-là tombent, mais je reste sur ma faim par rapport à la gestion de ces fonds, qui sont vraiment assez parfois élevés, mais bon, c'est compliqué.
La disponibilité des médicaments, Célia.
Je voudrais rebondir à la question du fonds Gavi, préciser que le fonds Gavi, c'est la vaccination. Et aussi informer, peut-être, enfin pas informer, dire qu'il y a dans quelques semaines, Inch'Allah, une usine pharmaceutique qui va être ouverte à Bamako, enfin dans la périphérie, avec l'appui des Chinois. Donc on espère que ça va réduire un peu le gap.
Pourquoi ouvrir une usine alors qu'il y a une autre à côté, qui est en faillite ?
les gens
malgré
font,
les
gens font ce qu'ils font de, veulent de leur argent. L'investisseur, écoutez, les investisseurs viennent. Il y a des sociétés de vente de, d'appareils électroniques qui ferment et d'autres qui rouvrent. Hein.
Le médicament, c'est une question de gestion. C'est toute une autre chose.
Oh, vous savez, le médicament, c'est un bien de consommation comme un autre. Mmh. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Et justement, réussir à faire en sorte que, bien que ce soit un bien de santé, qu'il soit perçu comme tel et disponibilisé comme tel. Parce que si vous vendez du lait, que le lait ne doit pas aller au soleil, que vous le mettez au soleil, ce que vous vendez après, c'est pas du lait, c'est autre chose. Il faut que les gens rentrent dans ce système-là. On le disait tout à l'heure, il y a des médicaments de qualité qui se retrouvent. Vous avez parlé de la pharmacopée. C'est un truc extraordinaire que nous négligeons, mais ouais. Bêtement. Nous avons tout au Mali, mais particulièrement au Mali, nous avons tout pour soigner avec nos plantes. Pourquoi ne pas nous focaliser
frais.
Sur ça, arriver à proposer des produits, justement, comme je disais,
c'est disponible en pharmacie.
C'est du business. C'est du business. Proposer des produits aux gens, les gens connaissent les noms des plantes et tout depuis leur tendre enfance. Donc, ils se retrouveront en plus dans ce qu'on leur proposera. Et après, ce sera un travail d'information pour leur faire comprendre que le médicament tradithérapie, le médicament conventionnel, ils font le même truc. Et puis, consommons Mali. Hein.
Et surtout, signaler que ces médicaments-là sont disponibles en pharmacie. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous nous retrouvons pour la troisième partie sur le troisième tonk, le troisième thème dédié donc aux examens de fin d'année.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Un clin d'œil à nos auditeurs de la radio Guintan ici à Bamako, la voix des femmes, donc à Manyambourou. Wereda, nous sommes donc dans la troisième partie de cette émission consacrée donc aux examens de fin d'année. Alors, malgré les tensions au nord du pays, la plupart des élèves du fondamental ont pu se rendre aux différents centres d'examen du DF suite donc aux affrontements. 31 000 déplacés, 500 réfugiés. Difficile de ne pas penser que parmi ces déplacés et ces réfugiés, qu'il y ait quelques candidats aux différents examens. Donc, de fin d'année, aucune mesure urgente n'a jusqu'alors été prise par les autorités. Comment doit-on comprendre ces cas-là dans le nord du Mali, Aliou Diawara?
Je pense que, avec ce contexte de situation difficile, sur le terrain, les autorités font ce qu'elles peuvent faire. Je pense que aussi c'est bien que des candidats du Nord puissent composer en même temps que leurs camarades du sud du pays. Mais ce qui est sûr, c'est que lors de ces examens, ce qui attire surtout l'attention, ce n'est pas que la situation des déplacés, c'est vrai que c'est intéressant, mais quand on sort d'une année de fraude massive lors des examens précédents, pense que ce qui attire l'attention, c'est surtout les fraudes. Et il est intéressant de constater que lors de la première journée et même de la deuxième journée du DEF, on n'a pas parlé de fraude massive et je pense que ça c'est à saluer pourvu que ça continue jusqu'à la fin, pourvu qu'il en soit aussi de même pour d'autres examens comme le bac. Et aussi on n'a pas appris que des élèves ont été obligés d'étudier sous des torches, sous des lampes, à des heures indues, à des heures où la tête ne travaille plus. Donc il y a tout un constat de positif par rapport à ces examens, mais il serait mieux que l'État donne de meilleures conditions de travail dans des zones fragiles hein, au plan de la sécurité comme les régions du Nord qui, je pense, que ont passé ces moments d'examen dans beaucoup de difficultés.
Alors, ces déplacements massifs, on l'a signalé, hein, ça a été juste quelques jours avant donc les tensions, juste quelques jours avant les examens du DF. Aujourd'hui, est-ce que l'État doit prendre des mesures par rapport à ces déplacés? Je l'ai dit tout à l'heure, difficile de ne pas penser qu'il y a des candidats parmi ces déplacés. Yaya,
la plus belle. C'est vraiment triste de voir des Maliens qui ne composent pas comme leurs frères du Mali. Mais bon, je pense qu'Alou l'a dit, L'État fait ce qu'il peut faire, de grands efforts. Alors, je pense que si ces déplacés sont répertoriés, recensés, il ne serait pas mal qu'on leur propose une session spéciale. Parce que si c'est possible vraiment qu'il y ait une session spéciale pour ces enfants-là, pour qu'au moins ils puissent composer, alors s'ils ont alors pu alors, finir le programme, étudier comment alors c'est du Sud, mais qu'à l'approche du DF, il y a eu des problèmes vraiment que l'État essaie de revoir, de faire une
évaluation de la situation
spéciale pour que ces enfants puissent composer et avoir accès, n'est-ce pas, à des classes supérieures comme leurs frères du Sud. Je ne sais pas si je vais parler de la fraude, mais vous savez, c'est trop tôt qu'on parle de fraude.
Parce que l'année dernière, c'était pas trop tôt, oui, c'était les premiers jours.
Mais ce n'était pas le DF, c'était le baccalauréat, on se rappelle.
Les deux.
Mais la fraude au baccalauréat, c'était vraiment...
Il y a eu des fuites de sujets.
Oui, mais au baccalauréat, c'était vraiment un fiasco, en fait. Donc moi, je me dis, pour l'instant, je ne parle pas de fraude, parce que le bac, aujourd'hui, c'est l'examen primordial. Au Mali, tout le monde pense au bac.
Il faut d'abord passer au DF.
C'est très bon de penser au DF, mais vous savez, aujourd'hui, tous les Maliens, quand on a un bac au Mali, on pense que c'est maintenant un sésame, parce que le bac... Je vous dis actuellement, le bac à partir des années 2000, 2013 à 2015, c'est différent des bacs des 2000. Je le dis parce que...
Ça reste des examens.
J'évolue en tant que...
Ça reste des examens.
Je sais, mais j'avoue, en 2000, Famoussa, dans une classe de terminale, on pouvait, n'est-ce pas, avoir 50%, 80%, mais aujourd'hui, sur une classe... Vous allez voir rarement sur un effectif de 50 élèves, c'est seulement 3-4 élèves qui passent. Ça veut dire qu'il y a une différence, mais moi j'attends le baccalauréat pour me prononcer sur la question de fraude.
D'accord. Alors, la situation des réfugiés, des élèves réfugiés, seul le camp de réfugiés de Bassikounou en Mauritanie a pu tenir ses examens au même moment que les autres régions du Mali. Pourquoi les autres camps de réfugiés n'ont pas pu participer à ces examens? Célia, vous avez une idée?
Je vais partir de des supputations. Je pense que c'est une question de faisabilité aussi des choses, parce que les terrains ne sont pas les mêmes et les réalités ne sont pas les mêmes. Ce que les populations vivent au Burkina Faso, par exemple, où ils sont plus ou moins intégrés dans le système burkinabé, où ils passent les examens burkinabés, c'est des situations qui sont différentes. En Mauritanie, on a organisé le DF malien pour les candidats maliens. Voilà, donc les situations ne sont pas vraiment les mêmes. Moi, je voudrais, si vous le permettez, quand même, on parle de ceux qui ont quitté les régions de Tombouctou, Gao, il y a 2 semaines, mais ça fait 3 ans que les gosses de Kidal n'ont pas mis pied à l'école. Et je voudrais aussi qu'on pense à eux, parce que c'est vrai, et puis cette terminologie du camarade du Sud et du camarade du Nord,
ça fait mal.
Ça me fait mal. Ça me fait mal à prononcer. On est en train d'officialiser cette terminologie et c'est...
Disons, excepté Kidal, alors.
Oui, voilà, en fait, tout le Mali excepté Kidal. Mais vraiment, ça fait 3 ans que les gosses de Kidal n'ont pas été à l'école. Et je pense que c'est une situation qui a trop duré.
Ce sont des enfants. Les parties.
C'est une génération que nous sommes en train de sacrifier comme ça. On a dit que les rébellions, ce sont des cycles. Et si cette génération est sacrifiée, est-ce que nous ne risquons pas de les avoir sur le dos dans 10-15 ans? Donc il faut vraiment que nous fassions attention et que dès à présent, on réfléchisse à comment réintégrer ces enfants-là dans le système pour qu'ils puissent rapidement rattraper le retard qu'ils ont accumulé et se remettre à niveau avec leurs camarades. Concernant l'organisation matérielle des examens, Journal du Mali, l'Hebdo, a fait son dossier de la semaine sur les examens de fin d'année 2015. Et comme on l'a remarqué, on a fait le CAP, le DF vient de finir aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, il semble que le dispositif fonctionne. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, comme les enfants qui ne peuvent pas sortir des salles avec les sujets. Ça, j'ai trouvé cette idée mais tellement simple, mais tellement efficace. Tu as fini, tu laisses ton sujet, tu sors. Ça fait que tu ne peux pas aller le traiter pour envoyer les réponses à quelqu'un. Donc les candidats fictifs là qui viennent, qui déposent la feuille vierge et qui sortent, c'est fini. Je trouve que c'est dommage qu'on ait mis tellement de temps pour trouver des petites choses aussi simples qu'on puisse mettre en place. On vérifie les téléphones, personne ne rentre avec les téléphones. On vérifie, tu ne rentres pas avec tes documents dans le centre. Je pense que si on met ça à... Et puis, il y a eu la sensibilisation des enfants aussi. Je pense que ça manquait. On a fait comprendre aux enfants que si tu as un diplôme parce que tu as triché, tu n'es pas sur le pied d'égalité avec quelqu'un qui a étudié.
pour avoir son diplôme quand vous allez aller chercher du boulot. Il faut que nos gosses comprennent ça. Il faut que les parents comprennent que quand tu payes pour que ton enfant ait son diplôme, tu ne l'aides pas à avancer dans la vie. Et je pense que ce travail d'explication, de sensibilisation, d'information a été fait et ça porte des fruits. On sent même que les enfants eux-mêmes sont plus conscients. Il n'y a pas eu de retard. Eux tous y sont arrivés à l'heure. Ils ont respecté les consignes. Même quand les surveillants veulent les aider, ce sont les gosses qui refusent. On est allé dans les centres, on a vu ça. Donc je pense qu'il y a, il y a un changement de mentalité qui est en train de se faire petit à petit. Peut-être il va y avoir quelques cas de fraude. Ça ne peut pas rater. Dans tous les examens dans le monde entier, on a ça. Mais il y a une prise de conscience qui est en train d'être faite, tant au niveau de l'État qu'au niveau des parents, qu'au niveau des enfants, et ça, c'est à saluer.
Alors, l'État doit-il envisager aujourd'hui des méthodes plus drastiques concernant ces cas de fraude si elles s'avèrent fondées, Aliou?
Oui, bien sûr, l'État doit être toujours fort. S'il y a des cas de fraude, tous les acteurs de la chaîne, hein, y compris ceux-là à qui la fraude a profité, et ceux qui ont commandité la fraude, ceux qui ont été des intermédiaires dans le circuit, ça doit être démantelé. L'État doit être fort et montrer l'exemple. Je pense que si on le fait dès ces premiers examens de la série qui va suivre, parce qu'il y a le BT, à ce que je sache, il y a le BAC certainement, il y a d'autres qui vont venir. Si on prend même une personne en situation de fraude, si on fait une punition exemplaire, et si on communique là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de punir et de laisser, hein, que la chose passe inaperçue, il faut en faire une communication. Il faut que les radios aient accès à l'information, il faut que les autorités en parlent, il faut que les autorités l'expliquent, afin que ça serve d'exemple. Comme ça, non seulement cela nous éviterait des fraudes massives pour les autres examens de l'année, mais aussi ça peut être de bons exemples qui vont même dissuader à l'avance dans les années à venir d'autres qui seraient tentés à passer par ces systèmes de raccourcis.
Alors, ce n'est plus le même ministre qu'il y avait il y a un an, l'année dernière. Donc, c'est un autre ministre qui gère les affaires donc du département de l'éducation nationale. Est-ce que l'État a tiré les enseignements de l'année dernière, Yaya Coulibaly?
Je pense qu'on peut le dire comme ça, mais le ministre qui vient d'arriver, M. Togo, est vraiment... si on peut dire que c'est un sac à dos dans le domaine. Il connaît très bien alors
ce domaine. C'était pas un néophyte qui était à la tête l'année dernière.
Je sais bien, mais les deux sont pas comparables en fait.
Quelle est la différence?
De mon point de vue, Barthélemy Togo, comme on l'a connu de tout temps, c'était un homme, c'est pas pour faire ses éloges, hein, un homme vraiment avec des principes.
De terrain, vous voulez dire?
De terrain, mais des principes. Le principe est surtout, vraiment, quand il donne des instructions...
C'est respecté.
C'est respecté parce qu'il fait un suivi. C'est très important.
Juste rebondir, juste couper une seconde. Allez-y. Pour dire peut-être que Mme Togola avait le désavantage d'avoir été coupée un peu du système pendant un certain temps. Monsieur Togo, il est resté dedans, donc il sait. Il connaît les hommes, il connaît leurs valeurs, il sait où il faut taper, où il faut redresser, etc.
D'ailleurs, même son seul nom fait trembler beaucoup de directeurs d'académie. Hein. Oui. Même au niveau encore, au niveau supérieur, à l'académie, au CAP, quand on parle de Barthélemy Togo, déjà, on sait de qui il s'agit. Donc, je pense que cela aussi a un peu influé parce qu'on s'est dit, si on fait de telles choses, Barthélemy, lui, n'hésite pas, voilà, donc, à te taper dessus. Mais comme l'a dit Alou, il faut des sanctions exemplaires. Exemplaires
Tous les niveaux.
Oui, à tous les niveaux, comme ça n'a pas été le cas de l'année dernière. Moi, je peux dire comme ça. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a été vraiment une honte nationale pour le Mali entier. Mme Togo, comme on l'appelle... Mme Togo n'est plus là, mais... Elle devrait subir la même sanction, en fait.
C'est donc tout pour cette émission, ce forum de la presse qui vous a tenu en haleine avec trois sujets. Les discussions d'Alger qui ont donc abouti à deux documents signés par le gouvernement du Mali et les membres de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, mais sans la signature de la plateforme qui dit vouloir donc consulter sa base avant de signer quoi que ce soit. Le forum est également vont plancher sur le forum pharmaceutique international qui va donc prendre fin demain. Et les examens de fin d'année, c'était la troisième partie de cette émission. Je suis Famoussa Sidi Bé. Les acteurs qui m'ont aidé à l'animer, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Yaya Koulibaly de la radio Nasser Aoulé et Alou Diawara, journaliste indépendant. Merci à vous, messieurs. Merci, madame, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidi Bé. Nouhoum Diré est à la technique. Petit Ndjara est à la régie vidéo. Ousmane Dété Touré et Juliette Koulibaly ont réalisé cette émission. Nous vous disons bon week-end. À très bientôt pour un autre débat. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.